Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous revenons bien évidemment sur ce mini-sommet mercredi dernier à Washington entre le président américain Donald Trump et cinq présidents africains. Un mini-sommet largement commenté et c'était au profit de l'Afrique, ou plutôt c'était une manière de s'emparer des ressources minières africaines. Le débat s'oppose et dans Coémergence, nous en parlons dans quelques instants. Et dans la destination éco de cette semaine, nous serons au Nigeria. Le Nigeria, un géant démographique et économique du continent. Comment se passe la relance économique depuis l'arrivée du président Ahmed Bola Tinubu? Vous aurez les réponses. Et ce sera avec Idriss Lingé dans la destination éco de la semaine. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais, à l'instant, Washington était le théâtre d'un mini-sommet entre le président américain Donald Trump et cinq de ses homologues africains. C'était un sommet largement commenté à travers le monde. S'agissait-il d'un événement de mettre en avant le potentiel et la nouvelle dynamique de coopération entre les États-Unis et le continent, notamment investir plutôt que d'aider? En tout cas, c'est largement commenté. Avant tout, je vous propose d'écouter le point de vue de Bakary Samb. Il est le directeur régional de Timbuktu Institute. Il nous donne son avis.
Oui, il est vrai que ce virage stratégique, avec ce virage, les États-Unis privilégient le commerce et les investissements par rapport à l'aide. Cela marque une volonté de repositionnement dans un contexte africain devenu un théâtre de compétition géopolitique. L'administration Trump semble vouloir contrer l'influence de la Chine, qui domine via ses investissements massifs dans les infrastructures, et la Russie aussi, la Russie qui est active aujourd'hui dans la sécurité et les ressources. Cette approche reflète, à mon avis, une réelle politique en misant sur des partenariats économiques. Les États-Unis, en fait, cherchent à sécuriser des débouchés pour leurs entreprises tout en offrant une alternative au modèle chinois et russe, et souvent critiqué pour leur manque de conditionnalité, etc. Cependant, je crois que ce changement intervient dans un contexte où l'Afrique exige des relations plus équitables. La question est de savoir si cette stratégie va répondre réellement aux besoins africains ou si elle parviendra principalement à servir les intérêts américains.
Vous venez donc d'écouter Bakary Samb, directeur régional de Timbuktu Institute. Alors à présent, je me tourne vers François Conradi. François Conradi est économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Il est basé à Casablanca. Alors François Conradi, bonjour à vous. Vous avez donc suivi ce mini-sommet de Donald Trump avec cinq des présidents africains. Alors, que retenir de ce mini-sommet donc à Washington, à la Maison-Blanche?
Pour moi, il y a deux choses qui sont intéressantes et importantes quand il s'agit de ce mini-sommet. D'une, que la course aux matières premières et surtout aux minéraux critiques est bel et bien enclenchée entre les États-Unis et la Chine. Et de deux, que la façon de négocier des États-Unis sous Trump sera beaucoup plus ouvertement mercantiliste et transactionnelle que sous son prédécesseur.
Alors, Cela dit, il y a une question aujourd'hui qui se pose, à savoir quelles sont les retombées économiques attendues de cette rencontre. Est-ce en faveur de l'Afrique ou plutôt c'est une affaire, disons, exclusivement bonne pour les États-Unis?
Alors pour les retombées économiques, il faudra voir. Est-ce en faveur de l'Afrique ou des États-Unis? Là, on peut toujours espérer pour des transactions, des investissements, des contrats qui sont gagnants-gagnants, dans lesquels le capital américain se sent justement récompensé, et aussi bien que le gouvernement africain sent que les impôts et les revenus et les emplois générés par l'investissement sont à la hauteur de leurs attentes. Il est vraiment tôt pour commencer à spéculer de à quoi va ressembler des investissements. Donc juste dans la semaine, il y a eu une annonce d'un investissement au Libéria par une société minière américaine, Ivanhoe, qui va consister en faciliter le transport de minerais et de fer depuis la Guinée jusqu'à la mer en traversant le Libéria. Mais là, pour les retombées, on n'a aucune idée pour l'instant de ce que ça va générer en termes d'impôts ou d'emplois. J'ai tendance à être assez sceptique parce que l'administration Trump a déjà montré sa peur, j'ai envie de dire, son horreur d'un déficit commercial bilatéral. Donc tout ce qui est valeur ajoutée en Afrique ne sera pas vu d'un bon œil aux États-Unis. Tandis qu'au contraire, et le président Oligui du Gabon l'a dit, l'Afrique s'attend à faire le maximum, à ajouter le maximum de valeur à ses ressources naturelles et de créer le maximum d'emplois. Donc, je pense que sur chaque investissement possible, il y aura de longues et difficiles négociations par rapport au cadre exact de chaque projet.
Alors, François Conradi, pensez-vous que Donald Trump veut forcément mettre la main sur les ressources naturelles africaines?
Oui, donc Trump veut forcément mettre la main sur les ressources naturelles africaines pour les raisons que nous avons évoquées. C'est pour le développement continu de l'industrie technologique américaine. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y avait sur la table hier. Il a mentionné aussi les matériaux, les équipements de défense que vendent les États-Unis. Là, c'est peut-être un moyen de chercher à équilibrer les balances commerciales qu'en échange des exportations de leurs minéraux, les Africains importent des équipements militaires américains. Il a aussi parlé d'immigration. Certains pays sont sur une liste de pays qui sont menacés d'être interdits de demander les visas américains. Là aussi, on peut penser que lorsque les portes étaient fermées, le président Trump a touché sur ces thèmes. Il y a aussi le commerce de la drogue, où certains de ces pays côtiers d'Afrique de l'Ouest sont des pays qui sont des stations dans le commerce international de la drogue.
En tout cas, c'est à suivre. Alors, une dernière question pour vous, François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Economics Oxford Africa. Est-ce que les États-Unis veulent tracer leur propre voie ou plutôt s'agit-il d'affronter autrement la Chine sur le continent?
Oui, enfin les deux sont corrects. Les États-Unis veulent tracer leur propre voie, en peut-être pas affrontant mais en se rendant moins dépendant de la Chine, surtout en ce qui concerne tout ce qui est technologie. Les deux pays, les grandes sociétés de deux pays sont engagées dans une course vers le développement technologique, que ce soit dans les intelligences artificielles ou les équipements de communication ou les processeurs. Et pour cela, il leur faut à tous les deux certains minéraux. Et ce qu'on a vu, ça fait partie de la stratégie américaine pour s'assurer de pouvoir obtenir les minéraux dont les États-Unis ont besoin pour leur secteur technologique.
Merci à vous, François Conradi, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Economics Oxford Africa. Vous êtes basé à Casablanca.
Zoom Express.
Je vous le disais en titre, nous allons parler de think tank et de cabinet de conseil en Afrique, car il faut reconnaître que le narratif sur l'Afrique est souvent conçu en dehors du continent. Il est donc important pour les pays donc africains d'en disposer. Et comment justement ces think tanks et cabinets de conseil peuvent-ils influencer positivement les politiques publiques en Afrique? Nous abordons ce sujet dans Coémergence, et c'est avec Kamal Akridis. Il est fondateur et président du ROC. Par ROC, il faut comprendre Research, Observation and Critical Knowledge, un think tank basé à Paris avec une présence active en Afrique. Bonjour à vous, Kamal Akridis, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir invité.
C'est un plaisir et un honneur également. Le plaisir et l'honneur de retrouver, comme chaque semaine, Mustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique et de la plateforme Best Afrique qui connecte la diaspora africaine et les diasporas du monde. Bonjour à vous, Mustapha El Bouri.
Omar, bonjour.
Alors, avec vous deux, nous allons donc parler de ces think tanks. Alors, je vais commencer d'abord par Kamal Akridis. Présentez-nous d'abord. Le ROC, je le rappelle, c'est un think tank, Research, Observation and Critical Knowledge.
Merci. Alors, déjà, je commence par une petite introduction. Je m'appelle Kamal Akridis. Je suis expert en intelligence économique et stratégie d'influence, diplômé de l'École de guerre économique Paris et l'EDEC Business School. Donc, je suis le président, comme vous avez dit, de ROC Institute. C'est un think tank indépendant qui opère entre l'Afrique et l'Europe, et qui travaille aux côtés des institutions publiques, des entreprises stratégiques et des organisations internationales. Notre objectif est clair, c'est renforcer la souveraineté stratégique africaine en développant nos propres capacités d'analyse, de décision et d'anticipation.
Donc, je pense que c'est une belle donc, entrée pour parler de ces think tanks. Alors, cela dit, pourquoi aujourd'hui il est essentiel, selon vous, que l'Afrique développe ses propres think tanks et cabinets de conseil stratégique au lieu de dépendre de structures étrangères?
C'est vraiment une très bonne question, parce que un continent qui n'a pas de capacité autonome de réflexion stratégique est condamné à exécuter les stratégies des autres. Voilà. Donc, trop souvent, l'Afrique se prête ses politiques publiques, ses plans de développement ou ses réformes à des cabinets étrangères qui n'intègrent ni les réalités sociales, ni les dynamiques culturelles, ni les enjeux géopolitiques du continent. Donc, créer nos propres think tanks, c'est bâtir ce qu'on appelle en intelligence économique une souveraineté cognitive, c'est-à-dire la capacité à produire une lecture autonome de notre environnement, de nos ressources et de notre vulnérabilité.
Je me tourne vers Mustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui, je le rappelle, connecte les investisseurs de la diaspora africaine donc avec le reste donc, des investisseurs à travers l'Afrique. Alors, Mustapha El Bouri, quel rôle les think tanks et cabinets de conseil peuvent-ils jouer dans la construction d'une vision stratégique africaine? Parce que je pense qu'on en a besoin quand même.
Oui, exactement, Omar. Pour un peu compléter ce que disait donc Kamal, c'est vrai que bon, il y a les think tanks et les cabinets de conseil. Souvent, ça peut être deux entités séparées, ça peut être aussi une même entité, comme celle de Kamal. Ces entités-là, elles ont vraiment un rôle clé. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui. Elles permettent déjà, je pense, de sortir de la gestion du quotidien pour un gouvernement et pour un État, et surtout d'avoir une réflexion sur le long terme. Si on regarde un peu les think tanks vraiment existants, comme ROC Institute ou d'autres qui existent sur le continent, ils permettent vraiment d'identifier les tendances de fond, c'est très important de poser des cadres aussi pour anticiper les enjeux qui sont à venir, que ce soit sur l'économie, sur le climat ou encore sur la gouvernance. Et surtout, il permet de transformer une vision. Bon, les États souvent ont des visions, mais il faut transformer ces visions en stratégie opérationnelle. Voilà, faut l'opérationnel. Donc, ils accompagnent vraiment les décideurs. Ça peut être à très haut niveau, ça peut être même les présidents, à structurer, à prioriser et surtout à mettre en œuvre leur plan d'action. Et je dirais ce qui est vraiment crucial, c'est que cette expertise, comme vous l'avez noté, Omar, et comme l'a précisé Kamel, il faut qu'elle vienne du continent lui-même. Parce qu'une stratégie africaine ne peut pas être pensée, comme on dit, à Paris-Washington. Hein. Elle doit être construite par des acteurs qui comprennent le terrain, les dynamiques locales, les réalités sociales et culturelles. Et penser par soi-même. C'est un acte de souveraineté déjà.
Un acte de souveraineté. Justement, vous parlez de souveraineté et actuellement, il faut dire que c'est le concept à la mode. Hein. Tous les États parlent de souveraineté économique et dans bien d'autres domaines, bien évidemment. Alors, Kamal Akridis, je rappelle que vous êtes le fondateur et président du ROC Institute, hein, Research Observation and Critical Knowledge donc, Institute. Alors, comment, donc, de façon concrète, ces think tanks, aujourd'hui, disons, africains, arrivent ou parviennent-ils, essayent-ils de parvenir à influencer les politiques publiques qui sont en cours de déploiement ou peut-être de préparation?
Alors, merci pour cette question. Je veux bien préciser que influencer au sens stratégique, ce n'est pas manipuler, c'est maîtriser les conditions dans lesquelles une décision est prise. Donc, les think tanks peuvent agir de façon structurée à trois niveaux. On a la production intelligence décisionnelle, on a la formation des élus publics et politiques, et on a l'interface entre la société civile et les décideurs. Donc, le premier point, on a parlé de production d'intelligence décisionnelle, c'est à travers la veille stratégique, les cartographies d'acteurs, l'analyse de rapports de force, bien aussi les matrices de risque. Le deuxième point, c'était la formation des élites publiques et politiques, car un État souverain, c'est un État qui s'appuie sur une élite compétente et stratégiquement formée. Donc, voilà. Le dernier point, c'était l'interface entre la société civile, les décideurs et les acteurs internationaux. Donc, nous sommes ce qu'on appelle des architectes d'influence en créant des ponts, en structurant des débats et on oriente la décision à partir de données fiables et ce qu'on appelle on est data driving. Donc on ne se base pas sur l'opinion mais on se base vraiment sur l'information sur les données.
Les données donc existantes. Alors, Mustapha El Bouri, en quoi la production autonome de savoir stratégique constitue aujourd'hui ou représente un levier de souveraineté pour les États et les institutions africaines?
En fait, c'est vraiment un levier, je dirais même que ce levier est fondamental. Parce que bon, on en a parlé donc durant les discussions, les échanges avec Kamel, hein, mais tant qu'un État dépend des analyses ou dépend des modèles qui sont produits ailleurs, il est toujours en ce qu'on appelle en position de suiveur. Donc il réagit, mais en fait il ne décide pas, il n'y a pas de décision qui sont prises réellement, donc il suit. Donc, produire, je dirais, son propre savoir stratégique, il faut décider par soi-même de ce qui est prioritaire, de ce qui a de la valeur et de la manière de répondre aussi aux défis locaux, parce qu'il y en a, il y a toujours des défis locaux. Donc, il faut pouvoir s'appuyer sur des données fiables, des données qui sont issues du terrain et non pas juste des données qui sont statistiques, mais issues du terrain, pour pouvoir prendre, je dirais, des décisions qui sont un tant soit peu éclairées, sans être, encore une fois, sans être sous influence ou sans être biaisé par des logiques qui sont extérieures. Et ça va un peu plus loin, je dirais. Ça permet aussi de former, comme a dit Kamel, des élites. C'est très, très important. Ça permet de nourrir le débat public et orienter surtout les politiques publiques, je dirais, pour prendre un sens un peu figuré, avec une boussole qui est réellement africaine. Donc c'est ça la souveraineté, Omar, la stratégique. C'est être maître de sa pensée, maître de ses choix et maître surtout de son avenir.
En tout cas, mais une dernière question me vient à l'esprit et je l'adresse à Kamal Akridis. Pensez-vous qu'aujourd'hui, en termes de ressources humaines, en termes de compétences, les pays africains disposent de ce qu'il faut pour avoir leur propre think tank?
Bien sûr, et je suis plus que sûr de ça parce que vraiment aujourd'hui, on doit vraiment changer l'image. Le monde pense de l'Afrique, c'est qu'on est un continent où on a toujours besoin de l'aide, on a toujours besoin de support. Malheureusement et heureusement pour nous, ce n'est pas comme ça. L'Afrique est en train de construire des leaders, en train de construire vraiment des leaders partout dans le monde. Et du coup, je pense qu'on a vraiment les ressources On a vraiment les moyens, on a vraiment les compétences. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants africains qui dirigent des think tanks, qui dirigent des boîtes, des multinationales, etc. au niveau international. Mm-hmm. Et ça, c'est une preuve que les Africains aujourd'hui, mm-hmm. ils sont capables de prendre la bonne décision. Ce n'est pas juste prendre une décision, mais prendre la bonne décision pour le continent.
Mmh. Prendre la bonne décision pour eux-mêmes. Merci à vous, Kamal Akridis. Je rappelle que vous êtes fondateur et président du ROC Institute, le Research, Observation and Critical Knowledge, un think tank basé à Paris, mais avec une présence active sur le continent africain. Merci également à Mustapha El Bouri, qui nous accompagne donc, comme chaque semaine, dans cette rubrique. Mustapha El Bouri, patron et directeur, donc général de Best Afrique, une plateforme qui réunit les investisseurs de la diaspora africaine. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et au plaisir de vous retrouver très bientôt dans Coémergence.
Merci Omar.
Merci.
À très bientôt.
Destination Éco.
Et c'est désormais une rubrique que nous animons avec nos confrères de l'agence Ecofin. L'agence Ecofin est spécialisée dans les formations financières et économiques en Afrique. Chaque semaine, nous aurons le plaisir de retrouver l'analyse de son rédacteur en chef, Idriss Lingé. Et aujourd'hui, Idriss Lingé nous amène au Nigeria pour faire le point sur l'état de l'économie nigériane, première puissance démographique africaine. Idriss Lingé, comment se porte l'économie du Nigeria?
Alors, l'économie du Nigeria traverse des défis sérieux, notamment avec une inflation, c'est-à-dire un rythme de progression des prix qui est assez élevé. C'est une inflation à deux chiffres. Et forcément, le fait que les prix augmentent de manière intense, ça accroît la pauvreté. Le nombre de personnes de la classe moyenne qui se retrouvent dans l'incapacité de consommer est élevé. Et puis, naturellement, cela entraîne des problèmes de sécurité. Cependant, le pays s'efforce de surmonter ces obstacles, autant pour moi, grâce à des réformes structurelles et des initiatives du gouvernement qui vise à continuer de diversifier l'économie, améliorer l'infrastructure de production. Donc, malgré les difficultés, le Nigeria reste une opportunité d'investissement et c'est une chose qu'il faudra surveiller de très près.
Alors, Idriss Lingé, vous nous avez fait la météo donc, de l'économie nigériane. Alors, quelles sont les opportunités d'investissement dans la deuxième puissance économique du continent, surtout pour des investisseurs en provenance de pays comme le Maroc?
Alors, les opportunités d'investissement au Nigeria sont assez nombreuses. Rappelons que ça reste quand même le plus grand marché d'Afrique avec ses 210 millions d'habitants et qu'il compte quand même une classe de consommateurs, notamment avec des personnes qui ont des pouvoirs d'achat évalués en millions de dollars, qui est assez conséquent. Maintenant, pour un pays comme le Maroc, il faut dire que le Maroc a développé de l'expertise dans beaucoup de segments. Il pourrait, par exemple, tirer profit des opportunités dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication. C'est un secteur en pleine croissance qui offre encore des opportunités. Il y a des entreprises locales, mais ces entreprises peuvent avoir besoin des partenariats extérieurs. Nous avons l'agriculture et l'agro-industrie. Les 200 millions de Nigérians ne mangent pas suffisamment. Bien sûr qu'on a lancé une usine d'engrais là-bas, notamment avec Dangote, mais l'office chérifien des phosphates a un marché important qu'il peut conquérir avec des produits compétitifs. L'énergie renouvelable, c'est une opportunité au Nigeria. On compense le manque d'électricité et d'hydroélectrique par des groupes électrogènes. Ça pollue les villes du Nigeria et les énergies renouvelables où le Maroc a montré un certain leadership peuvent constituer une opportunité à explorer. Donc, le Nigeria offre de nombreuses perspectives dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de la construction. C'est un pays qui a encore des marges de croissance importantes. Et justement, le fait que la monnaie se soit légèrement, enfin, sérieusement effondrée, fait en sorte que les coûts d'investissement sont plus faibles, avec la possibilité d'avoir des taux de rendement élevés.
Merci à vous, Idriss Lingé, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée dans l'information financière et économique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.